Merci d'être avec nous sur RFI. Il est tout juste 15h temps universel, 16h ici à Paris, 17h à Jérusalem.
Charlotte Hydrac.
Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, les premières libérations, 3 otages israéliennes, 3 civils sont concernés en échange de détenus palestiniens. Des premiers camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza. Des milliers de déplacés palestiniens sont sur le chemin du retour. Par ailleurs, le parti israélien d'extrême droite, Force juive, en désaccord avec la trêve, a quitté la coalition au pouvoir. À suivre aussi l'Iran qui maintient sa pression malgré des revers. Face à Israël, Téhéran a dévoilé une nouvelle base navale souterraine. Et puis les préparatifs de l'investiture de Donald Trump demain aux États-Unis. Parmi les premiers dossiers sur la table du président américain, le sort de TikTok débranché. L'application interdite sur le territoire américain n'est plus accessible aujourd'hui. À pied, en camionnette, des milliers de déplacés ont donc pris la route pour rentrer chez eux au premier jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dévastée par 15 mois de guerre. La trêve est entrée en vigueur à 9h15, temps universel, avec près de 3 heures de retard sur ce qui était prévu au départ. Dans le même temps, les premiers camions d'aide humanitaire sont entrés dans le territoire et l'accord prévoit la libération de 3 premières otages israéliennes en échange de détenus palestiniens. Le Hamas a transmis donc au gouvernement israélien la liste des 3 premiers noms d'otages israéliennes. Sami Bourlifa, il s'agit de 3 civils.
Romy Gonen, 23 ans, Émilie Damari, 27 ans et Doron Steinbreker, 30 ans. Toutes 3 sont des civils. Romy Gonen, la plus jeune, a été blessée le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas contre Israël. Romy a reçu ce jour-là une balle dans la main. Elle était au téléphone avec sa mère quand elle a été capturée. « Ils m'ont tiré dessus, maman, et je saigne. Tout le monde dans la voiture saigne », avait confié la jeune fille en état de choc et paniquée avant d'être emmenée de force à Gaza. En novembre 2023, lors du premier accord de trêve entre Israël et le Hamas, un otage libéré avait expliqué qu'elle était en vie mais en mauvaise santé. Émilie Damari, 27 ans, israélo-britannique, elle aussi blessée par balles et par des éclats d'obus le 7 octobre 2023, enlevée dans son appartement de Kfar Aza, un kibboutz frontalier de la bande de Gaza, emmenée à l'arrière de sa propre voiture, les yeux bandés. Doron Steinbreker, 30 ans, de Kfar Aza également, dernier signe de vie, un texto envoyé à ses proches pour dire qu'elle se fait kidnapper. Sami Bourlifa, Jérusalem.
Et selon des informations de la presse israélienne, ces 3 otages israéliennes ont été remises à la Croix-Rouge. Cet accord de cessez-le-feu qui crée des remous politiques en Israël, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a démissionné. Son parti d'extrême droite, Force juive, a quitté la coalition au pouvoir. Il dénonce un accord scandaleux avec le groupe terroriste du Hamas. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, lui, a menacé de faire la même chose si Israël ne reprenait pas la guerre après la première phase de cessez-le-feu de 6 semaines. Ces nouveaux développements suivis de très près en Iran, soutien du Hamas et ennemi juré d'Israël. L'Iran qui entend maintenir sa pression sur l'État hébreu. Les autorités de Téhéran ont dévoilé une base navale souterraine avec des centaines de bateaux rapides, Siavosh Ghazi.
Cette base située dans le golfe Persique a été montrée quelques jours après que les gardiens de la Révolution ont montré une base souterraine de missiles capable d'atteindre Israël. Sur les images diffusées par la télévision d'État, on voit des centaines de petits bateaux. Selon le commandant de la marine des gardiens de la Révolution, certains de ces bateaux peuvent atteindre une vitesse de 180 km et lancer en même temps des missiles. 3 de ces bateaux suffisent à faire couler un grand navire ennemi, a déclaré le commandant Tang Siri. Il a ajouté que Téhéran possédait d'autres bases du même genre dans le golfe Persique et pouvait très facilement faire face aux menaces. Cela intervient alors qu'Israël a menacé l'Iran d'attaquer ses sites nucléaires, mais aussi pétroliers dans le golfe Persique. À la veille de l'arrivée au pouvoir du président Trump, c'est aussi une manière de montrer que malgré la guerre à Gaza, la décapitation du Hezbollah libanais ou encore la perte de la Syrie, l'Iran reste une puissance militaire importante dans la région. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Démonstration de force donc juste avant l'investiture de Donald Trump. Demain à Washington, dans une interview sur la chaîne NBC, le président américain a déjà promis de signer un nombre record de décrets présidentiels dès sa prestation de serment, avec en priorité son programme d'expulsion d'immigrés clandestins. Donald Trump a aussi évoqué le sort de TikTok, l'application interdite aux États-Unis, désormais inaccessible. Les utilisateurs ne peuvent plus se connecter. Le président américain a dit envisager un sursis de 90 jours pour le réseau social. Le réseau X, lui, dans le collimateur de certains utilisateurs, personnalités, institutions, médias ou encore ONG, ont déjà quitté la plateforme détenue par Elon Musk, désormais conseiller du président américain. X accusé de faire la promotion des discours de haine et de la désinformation, en particulier pour les défenseurs de l'environnement, Jeanne Richard.
Universités allemandes, autrichiennes ou espagnoles, scientifiques et associations environnementales, ils sont des dizaines à annoncer quitter X. C'est aussi le cas de la climatologue et ancien membre du GIEC Valérie Masson-Delmotte. Sur X, elle était pourtant prolifique, prête à dialoguer et échanger avec ses followers.
Ça, je l'ai perdu sur ce réseau, notamment depuis son rachat par Elon Musk, depuis 2022, avec des algorithmes qui facilitent tout ce qui est polémique, clivant, les contenus haineux. Cela porte sur la désinformation, y compris par rapport aux connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique, le dénigrement de scientifiques, et en fait, c'est devenu toxique.
La date choisie pour son départ est emblématique, le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump et de l'entrée d'Elon Musk au gouvernement américain.
Je pense que ça relève d'une responsabilité collective de nous interroger finalement par rapport à l'utilisation d'un réseau qui est utilisé par rapport aux intérêts partisans, aux obsessions de son propriétaire.
Dans le passé, des vagues de départ de X ont déjà été annoncées, notamment au moment de son rachat par Elon Musk. Mais à chaque fois, elles ont échoué. Nombre d'utilisateurs n'ont pas pris le risque de se passer de leur audience.
Et c'est désormais sur Blue Sky ou Mastodon que Valérie Masson-Delmotte publie ses messages. La situation est critique dans la région du Catatumbo en Colombie, à la frontière avec le Venezuela. C'est le commandant de l'armée colombienne qui le dit, en pleine offensive contre la guérilla de l'ELN, l'armée de libération nationale qui a lancé l'assaut. Le bilan des affrontements est d'au moins 60 morts. Des renforts kényans arrivés en Haïti, plus de 200 policiers donc à Port-au-Prince en renfort pour participer à la mission multinationale de soutien à la sécurité, cette force chargée de lutter contre les gangs armés. Elle compte donc désormais 600 hommes. Le bilan s'est alourdi au Nigeria après l'explosion d'un camion-citerne hier dans le centre du pays. Il a grimpé ce bilan à 86 morts. La foule s'était rassemblée autour du véhicule accidenté pour tenter de récupérer du carburant. En France, le nouveau Front populaire fracturé après la décision du Parti socialiste de ne pas voter la censure contre le gouvernement Bayrou cette semaine. Selon Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, invité de nos confrères de RTL Public Sénat tout à l'heure, le PS n'est plus un partenaire, dit-il, c'est un allié. Et encore de circonstances. Fin de citation. La France où le Secours populaire fête ses 80 ans, l'occasion pour l'association qui vient en aide aux plus démunis de lancer une nouvelle campagne de solidarité. Sa longévité, le Secours populaire la tient des donateurs, mais aussi de ses bénévoles. Ils sont nombreux, ces bénévoles qui donnent un peu de leur temps. Reportage de Mathias Troud, place de la République à Paris.
Vêtements aux couleurs de l'association, autocollants sur les façades des commerces et même habillage pour les réseaux sociaux, le Secours populaire incite à de nouvelles manières d'aider à l'heure où les donateurs eux-mêmes peuvent être touchés par la précarité. Christian Causse, responsable des événements du Secours populaire.
L'engagement est modifié par rapport à avant. Aujourd'hui, on est plus sur du donner son temps 2 heures, 1 heure ou faire un geste envers la solidarité. L'engagement est différent, mais il y a toujours une si grande mobilisation à la solidarité des Français.
Et parmi ceux qui donnent un peu de leur temps autour du chapiteau de l'association, Giannis Bouziani n'est pas découragé par le vent glacial.
Le bénévolat a beaucoup aidé des proches à moi, ma famille. Du coup, quand j'ai pu le faire moi, c'était une évidence pour moi de contribuer et d'aider les gens comme je pouvais. Et aussi de pouvoir le faire avec des amis et tout, c'est toujours trop cool, c'est des bons moments.
Delphine Lechat, une autre bénévole rencontrée un peu plus loin, se réjouit de pouvoir concrétiser ses convictions.
Ça m'apporte du sens et je pense que c'est important aussi pour la nouvelle génération de faire des choses qui ont du sens.
Collecte, distribution, sortie, buvette, toutes les activités du secours populaire s'appuient sur les 90 000 bénévoles qui donnent de leur personne en plus de leur argent.
Reportage de Mathias Troud à suivre sur RFI en sol majeur avec Yasmine Chouaki. Et toute l'actualité, notamment après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, c'est sur RFI.fr. À tout à l'heure.